Allez, nous sommes toujours ensemble et en direct sur Medien, sur Medien.com. Merci à vous de votre fidélité. C'était Coldplay et Selena Gomez pour ce joli moment qu'on partage, qu'on a partagé ensemble. Et vous le savez, vous l'attendez certainement, notre spécialiste en psychiatrie, Dr Hotman, Lorabi, comme tous les jeudis matins, fidèle à ce poste, fidèle à ce rendez-vous. Et vous êtes nombreux, bien évidemment, à être fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire, donc depuis quelques mois déjà, docteur Hotman Lorabi qui est avec nous en direct depuis Casablanca. Bonjour docteur.
Bonjour Mariam, bonjour à toutes les auditrices et aux auditeurs, et bonjour bien sûr aussi à tous les membres de l'équipe.
Et on remerciera bien évidemment tous ces membres de l'équipe qui nous accompagnent également, notre amie Louisa bien évidemment, et puis tous les réalisateurs de cette émission, Abdnour qui est aux œuvres donc ce matin. Merci à eux. Alors, on parle ce matin de troubles d'accumulation et de collectionnisme, je le disais donc. Il s'agit là d'un TOC qui se traduit par la peur de jeter un objet. Alors résultat, on ramasse, on entrepose, on collecte des objets parfois inutiles, des objets dont on a du mal à se débarrasser, à se séparer. D'abord, comment peut-on définir donc ce trouble, ce TOC, et rappelons ce qu'est un TOC si vous le voulez bien, docteur Lorabi.
Alors un TOC, c'est un trouble obsessionnel compulsif, c'est-à-dire que c'est un trouble qui va se manifester par l'apparition, l'intrusion d'une idée qu'on reconnaît comme étant absurde, mais qui va générer en nous une grande angoisse, qui va nous forcer à avoir un comportement qui peut paraître irrationnel, soit dans la répétition, soit dans son exécution. Ça, c'est la définition très large du TOC. Effectivement, les troubles de l'accumulation sont des troubles qui sont apparentés au TOC, bien qu'actuellement, dans les nouvelles classifications, on a tendance à décrire ça, je dirais, de manière un peu isolée, sous le nom de syllogomanie. Alors, c'est un nom barbare qui veut dire étymologiquement qu'on aime beaucoup le fait d'accumuler. C'est vraiment ce que ça veut dire. Et en fait, il y a des vrais critères diagnostiques, parce que au-delà du simple aspect de collectionnisme que vous citiez, parce que le trouble de l'accumulation est vraiment différent du collectionnisme. En général, quand on va parler de collectionnisme, de collection, donc ce sont quand même des objets qui vont avoir un tant soit peu de valeur. Alors que à l'inverse, quand on est dans le trouble de l'accumulation, parmi les critères diagnostiques, c'est qu'il va y avoir une accumulation excessive d'objets avec une immense difficulté à s'en débarrasser, même si cela gêne et que ce soit gênant dans l'espace de vie, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et ce sont des objets qui n'ont pas de valeur. Être même des détritus, ce genre de choses. Ce sont les deux premiers critères diagnostiques, pour en parler rapidement. Les deux autres critères diagnostiques pour retenir ce diagnostic de syllogomanie, c'est le fait que l'espace de vie va être encombré. Ça, c'est très important. Peu importe qu'on habite en appartement ou en villa, à la campagne ou en ville, il va y avoir un encombrement de l'espace de vie. On va avoir une obstruction, des fois, pour l'accès à la salle de bain, à la cuisine, ce genre de choses. Il y a quelque chose qui est trompeur. Excusez-moi, j'ouvre une petite parenthèse. C'est que ce critère, il est valable s'il n'y a pas l'intervention d'un tiers. Je pense notamment à des configurations familiales où, forcément, quand on habite par exemple en couple ou ce genre de choses, l'autre personne va nettoyer, laver, réordonner, etc. Donc ce critère, il est lié à ça. Et puis, critère très très important, c'est le fait que ça induise une souffrance psychique très importante qui va être liée aussi à une très grande perturbation de la vie sociale, parce que en général, ce sont des gens qui vont empêcher même leurs proches de venir chez eux, qui vont empêcher même des réparateurs de rentrer à la maison, le plombier, l'électricien, etc., pour faire des réparations, parce que forcément, il y a besoin d'entretien. Et donc, ça peut vraiment, dans des cas extrêmes, arriver à une totale insalubrité, donc de l'habitat de la personne qui souffre de ce trouble de l'accumulation.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un terrain favorable ou est-ce qu'on le devient complètement par hasard, j'allais dire?
Alors, il y a les deux entre guillemets,
D'accord.
c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose d'inné. Donc ça, c'est la
D'accord.
première des choses qu'on va dire. Mais d'un point de vue cause de ce trouble d'accumulation, alors
Oui.
tout à l'heure on a cité le trouble obsessionnel compulsif comme étant entre guillemets la cause, mais je vous disais que c'était disputé, cette notion était disputée parce qu'on se rend compte que ce trouble d'accumulation peut être vu dans des pathologies mentales comme la schizophrénie, par exemple. Il peut se manifester aussi dans des troubles mentaux organiques, c'est-à-dire neurologiques, des pathologies démentielles, une démence frontale. Donc ça peut, donc vraiment, à cause d'une lésion neurologique, faire son apparition, ce trouble. On peut trouver ça aussi dans les pathologies traumatiques, hein, dans les syndromes de stress post-traumatique. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une théorie qui semble valable, comme quoi, en fait, les personnes qui vont développer ce trouble à l'issue d'un traumatisme sont des gens qui ont eu aussi un traumatisme important dans leur tendre enfance, avant l'âge de 3 ans, avec des carences affectives. Et c'est vrai que c'est une notion qu'on va retrouver. Donc ça peut constituer une fragilité qui va
D'accord.
grandir avec nous. Et puis, il y a d'autres troubles psychiatriques comme le syndrome de Diogène ou le syndrome de Noé. Alors, le syndrome de Diogène, c'est le trouble de l'accumulation à son extrême. C'est-à-dire qu'on va même accumuler les détritus, les excréments, des choses. C'est très, très, très fort.
Oui.
C'est quelque chose qui va toucher les personnes âgées, en général isolées, suite souvent à un événement de vie traumatique, un deuil, une retraite, ce genre de choses.
Ça les
Donc,
rassure, c'est ça?
alors oui, quelque part,
Oui.
oui, c'est l'une des hypothèses. C'est un peu que c'est rassurant et que c'est une espèce d'attachement et que on est un peu dans le refus d'autrui, hein, parce que ça nous permet de nous isoler. Voilà, d'où le nom de syndrome de Diogène. Et puis il y a le syndrome de Noé qui consiste en la même chose, une accumulation excessive, mais à ce moment-là d'animaux de compagnie
D'accord.
essentiellement, des
D'accord.
chats, des chiens, etc. Donc ça peut rentrer. Donc cette illogomanie, elle va
D'accord.
rentrer dans l'ensemble de ces pathologies. Et pas uniquement dans le cadre de troubles obsessionnels compulsifs.
Alors, en termes de d'accompagnement, comment ça se passe, docteur?
Alors, l'accompagnement, il va dépendre de deux choses très importantes, parce que quand on parle de ce trouble d'accumulation, il y a des patients, enfin des personnes qui en souffrent, qui vont en avoir conscience, qui vont avoir conscience que c'est quelque chose d'excessif, que ça impacte leur vie, et donc il va y avoir une motivation. La psychothérapie à ce moment-là a d'excellents résultats, et quelquefois on peut recourir à des antidépresseurs, essentiellement pour casser les angoisses liées au fait de se débarrasser d'objets et les angoisses liées au besoin impérieux d'acheter de nouveaux objets, hein. Il y a l'excès d'accumulation aussi, qui est une notion. Ça d'une part. Alors, mais quand les personnes n'ont pas je dirais, ce regard sur leur fonctionnement et sur leurs troubles, et ben, à ce moment-là, c'est un petit peu plus compliqué parce que on va être dans des pathologies sous-jacentes qui sont plus compliquées et qui vont nécessiter une prise en charge spécifique à la pathologie sous-jacente. Quand je parlais, par exemple, d'association avec des troubles neurologiques ou avec une schizophrénie, par exemple, la prise en charge, donc, du trouble sous-jacent est absolument nécessaire et primordiale et prioritaire. Parce que très très souvent, ça permet donc la disparition de ce trouble, sauf dans de rares cas, par exemple, où c'est des séquelles d'un accident vasculaire cérébral ou d'un trauma crânien, ce genre de choses.
D'accord. Alors, l'entourage, on va y revenir également. C'est une souffrance également pour cet entourage, docteur Lorabi.
Oui, en fait, c'est surtout parce que on va avoir bon, des disputes, etc. Et au final, il va y avoir un isolement de la personne.
Oui.
C'est-à-dire que l'entourage ne va plus lui rendre visite parce que à chaque fois qu'on sort à sa porte, il va pas ouvrir, il va nous empêcher d'entrer, ce genre de choses. Moi, j'encourage les gens à tout simplement l'entourage qui reconnaissent ce genre enfin, des personnes qui souffrent de ce genre de troubles dans leur entourage, ben, d'insister, de pas laisser tomber parce qu'il y a une souffrance qui n'est pas dite, hein, parce que la personne ne va pas les appeler en leur disant au secours, j'ai un problème d'accumulation. Il y a très souvent un fort sentiment de honte qui va accompagner ça. Mmh. Et donc, il faut être dans la persistance et dans la bienveillance pour accompagner la personne à se faire prendre en charge d'une manière extrêmement spécifique. Voilà, il ne faut pas lâcher prise.
Et ça prend du temps à aller mieux quand on en souffre, docteur ?
En règle générale, non. Dès que le diagnostic est posé, et surtout quand il y a un diagnostic sous-jacent qui est clairement isolé et qui est de bon pronostic, etc., c'est vraiment quelque chose qui peut changer rapidement la vie de la personne. Alors, tout en sachant que, quand même, quand je parle de sylogomanie pure, de troubles de l'accumulation pure, c'est-à-dire sans troubles neurologiques, sans schizophrénie, etc., etc., c'est quelque chose qui va souvent apparaître pendant l'adolescence, hein, ou au début de l'âge adulte, et qui va être au début un peu gentil, quoi, c'est-à-dire y a pas une grande intensité de symptômes ni de souffrances, mais assez souvent c'est quelque chose qui va s'aggraver avec le temps et peut-être devenir significativement pourvoyeur de souffrance, ben plutôt justement quand on arrive à un âge mûr, c'est-à-dire dépasser la trentaine, la quarantaine.
Vos conseils avant de nous quitter, docteur Atman Lorabi, je rappelle que vous êtes spécialiste en psychiatrie, vos conseils à toutes ces personnes qui nous écoutent et qui en souffrent peut-être au jour d'aujourd'hui, que diriez-vous à ces personnes ?
Alors, comme d'habitude, il n'y a pas de honte à avoir un trouble, nous sommes tous sujets à... Enfin, on est tous possiblement un jour malade de quoi que ce soit. Ce sont des troubles comme d'autres, hein, même des maladies organiques. Il n'y a pas de honte à se soigner. Et puis, de manière générale, comme c'est l'approche de l'été, ou on va dire c'est le début de l'été, il faut profiter de cette période pour essayer de reprendre une activité physique. Alors, ça a l'air d'être totalement déconnecté du sujet, mais je parle en termes de santé mentale, de prévention. Je voudrais mettre l'accent sur l'activité physique modérée, au moins 3 heures par semaine. Oui. Ça aide à diminuer l'impact de toutes les pathologies et ça aide à prévenir l'apparition de toutes les pathologies. Toutes les études le démontrent. Il faut profiter du beau temps et voilà. C'est ça mon conseil.
Et ce sera le mot de la fin, ce sera le conseil de la fin. Merci, mille merci à vous, docteur Atman Lorabi. Alors, vous êtes spécialiste en psychiatrie, mais pas seulement. Vous êtes également secrétaire général de l'association marocaine de psychiatrie psychodynamique à Casablanca. Merci pour tout. C'est moi. Vous avez été présent. Vous avez été fidèle à ce rendez-vous. Vous avez répondu présent à chaque fois qu'on vous a invité. Mille merci encore une fois. Et je vous dis très très bientôt.
Très bientôt. Bonnes vacances.
Merci, docteur Lorabi. Ce sont des entretiens, bien évidemment, que vous pouvez réécouter à la demande sur notre site medien.com. Bonnes vacances, docteur.